Salut Pablo Vera, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger sur une thématique proche de la souveraineté en partie et de l'ingénierie informatique, de beaucoup de choses très intéressantes et surtout de la finance décentralisée. On va parler de stablecoin euro. On va tout de suite enlever le suspense. Tu es fondateur, cofondateur de l'AG Euro, de Angle Protocol. On a eu l'occasion de se rencontrer un paquet de fois, mais uniquement sur des conférences. Donc, les gens qui écoutent ce podcast n'ont pas eu l'occasion d'écouter un petit peu ta solution, de voir la thématique qui touche à l'euro, à stablecoin euro, stablecoin en général, et à toutes les choses que vous mettez en place, puisque vous êtes, à mon sens, l'une des entreprises, l'un des protocoles les plus innovants en Europe. Et justement, tu vas nous faire part des dernières innovations que tu vas mettre en place avec Angle, si on veut la faire à la française, notamment à des choses qui tournent autour des stablecoins. Or, on va en parler. Merci d'être avec nous cette semaine sur ce podcast. Je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours et puis ensuite sur Angle Protocol, s'il te plaît, Pablo.
Super, merci, merci de m'inviter, c'est un plaisir d'être là. Donc, comme tu l'as bien dit, moi je suis cofondateur de Angle. J'ai 26 ans, j'ai fait toutes mes études, enfin une grande partie de mes études en France, j'étais à Polytechnique. Et après, avec mes deux associés, puisqu'on est trois fondateurs de Angle, on a fait un master à Stanford. On est rentré dans le monde de la finance décentralisée vers la fin de l'année 2020, surtout par le biais académique. On avait pris des cours de crypto-monnaie à Stanford aux États-Unis. Moi, j'avais pris un autre cours sur un master, enfin dans mon master à Polytechnique. Et on a tout de suite vraiment bien aimé le côté économie, informatique, mathématiques. Si bien que fin 2020, on commençait à jouer avec les protocoles de finances décentralisées comme Compound, à avoir du yield sur des stablecoins dollars. Et là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que, on était soumis à un énorme risque de change dollar-euro. C'est-à-dire que je gagnais, à l'époque, les taux sur Compound, c'était assez élevé. Je gagnais du 4% sur du dollar. Mais fin décembre 2020, le dollar a à peu près perdu 4% par rapport à l'euro. Donc tout ce que je gagnais sur un an, je l'ai perdu en un mois. Donc on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir une industrie comme la finance décentralisée. Qui soit si composable, sur laquelle ce soit possible de reconstruire de façon beaucoup plus efficace des briques de la finance traditionnelle et de ne pas avoir tous les outils qui permettent aux gens d'en profiter sans être soumis à un risque de change. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est lancé dans l'aventure Angle. On était encore étudiants, on a eu la chance de lever assez tôt des fonds. Et donc, on a lancé notre protocole Angle en novembre 2021. L'AG Euro est assez vite devenu un des plus gros stablecoins euro du marché. Et aujourd'hui, c'est un stablecoin, un protocole qui pèse 50 millions de valeurs bloquées. Bon, on n'est pas du tout le plus gros protocole, mais l'AG Euro fait 70% du volume de transactions des stablecoins euro. Il est disponible sur plein de chaînes et il y a toute une stack technique autour. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Qui garantit la stabilité de l'AG Euro et surtout qui est comparable, même s'il y a quelques petites différences, on a essayé un peu d'améliorer ce qui se fait chez les autres, mais qui est comparable à celle des gros protocoles comme Maker ou Frax au niveau des stablecoins. Donc voilà, l'AG Euro, vous pouvez le voir comme le DAI, mais pour l'euro, donc décentralisé, surcollatéralisé, avec des petites features en plus qui rendent le tout plus efficace.
Et effectivement, une stabilisation un petit peu différente. On aura l'occasion d'en revenir un petit peu dans quelques minutes. Mais là, tu viens effectivement de spécifier quelque chose de très intéressant, qui est la dominance du dollar dans l'économie de la finance décentralisée. On sait que dans la finance traditionnelle, c'est une part très importante, mais dans la DeFi, la finance décentralisée qu'on connaît bien ici, qu'on traite depuis des mois, c'est encore plus que dans la finance traditionnelle, puisque c'est plus de 95, 99 même, je vais m'y risquer, des flux qui sont faits en dollars. On parle souvent de l'USDT, l'USDC. L'USDT, c'est plusieurs dizaines de milliards, 60 milliards de dollars en USDT notamment. Ce qui fait qu'avec 50 millions, ça paraît tout petit, mais vous êtes l'un des plus gros stablecoins euros parce que l'euro est sous-représenté dans cette industrie. Qu'est-ce qui fait, alors que la souveraineté européenne et française est à l'honneur depuis plusieurs années maintenant, que voilà, la France essaie d'être pionnière en Europe dans l'écosystème dit crypto, qu'il y a beaucoup de protocoles de la finance décentralisée ou autres qui sont européens ou en tout cas qui ont un ancrage européen fort, que la place de l'euro soit si faible?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que bien souvent, dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est le premier arrivé, premier servi. Le Bitcoin, c'était le premier arrivé. Il y a plein de gens qui ont essayé de le supplanter. Personne n'a réussi, même s'il y en a qui prétendent avoir trouvé des solutions qui sont censées être technologiquement supérieures. L'USDT, c'était le premier stablecoin dollar. C'est un stablecoin dollar qui est vachement critiqué. On reproche beaucoup à Tether, l'entreprise qui est derrière, de ne pas être suffisamment transparente sur ses réserves. Et pourtant, c'est beaucoup plus gros que l'USDC, qui fait figure de bon élève de la classe, qui publie régulièrement des audits de ses comptes, qui travaille avec les régulateurs à Washington. Et donc, le dollar et toutes les plateformes d'échange, le Bitcoin, l'Ether, etc., ça a commencé à être pricé par rapport au dollar. Et donc, sur l'euro, vu que rien de toute façon, enfin, l'euro, les choses ont commencé à être pricées en euros beaucoup plus tard, de base, il y a ce retard qui s'est accru. Ça a commencé à être pricé en dollars. L'euro, c'est bien après. L'autre raison, je pense, qui fait qu'il n'y a pas de gros stablecoin euro, c'est le fait que les taux d'intérêt en euros sont structurellement beaucoup plus faibles que sur le dollar. Et donc, ça fait qu'il y ait, là, maintenant, les taux d'intérêt ont monté. Donc, ce que je dis n'est plus vrai maintenant, mais c'était le cas il y a quelques années. Et là, on paye les conséquences de ce qui s'est passé dans les dernières années. Mais ce n'était pas viable de créer une entreprise qui fait un stablecoin euro. Une entreprise qui fait un stablecoin dollar, de façon centralisée. Hein. Nous, notre modèle, et comme SolidMaker, c'est un modèle qui est différent. Mais une entreprise qui fait un stablecoin dollar, son métier, c'est très simple. Elle prend des dollars qu'elle met dans son compte en banque et elle vous donne une crypto-monnaie qui représente le dollar qu'elle vous a donné. Et son business model, c'est d'investir ces dollars, d'acheter des bons du trésor qui vont la payer. Mais si ce n'est pas possible d'investir ces dollars ou ces euros pour un stablecoin centralisé et de faire un revenu dessus, ça ne marche pas. Et donc là, entre 2018 et 2022, le taux d'intérêt, c'était moins 0,5%. Donc, on était forcément à perte. Après, la troisième raison, je dirais, c'est un peu aussi une raison culturelle. Mais ça, c'est peut-être c'est un peu plus personnel. Je pense que les deux autres raisons sont plus objectives à avérer. Mais moi, je trouve que en Europe, en DeFi, il y a beaucoup de projets de qualité technique et excellente. Enfin, en France, là aussi, je suis biaisé, mais je pense qu'on a parmi les meilleures écoles d'ingénieurs du monde. On a une énorme capacité à former du talent. Donc, c'est pas un problème de talent. C'est pas un problème de capacité technique à réaliser les protocoles, à construire en DeFi, mais on est un peu moins fort en marketing. Et la voix des Américains, elle arrive à plus porter à travers le monde. Bon, c'est peut-être vrai aussi sur le marché Forex, hein, donc c'est peut-être pas ça qui explique le déséquilibre entre le marché, le rapport euro-dollar dans le marché Forex et le déséquilibre stablecoin-euro, stablecoin-dollar dans le marché crypto. Mais en tout cas, les protocoles crypto européens ont tendance à sans doute un peu moins bien s'exporter à niveau technique égal que les protocoles américains. Et donc, comme généralement, c'est des Européens qui ont envie de travailler sur des stablecoins euros, c'est aussi pour ça qu'on est un peu plus faible. Mais ça, c'est vraiment une raison très minime et peut-être plus globale, pas que aux stablecoins euros.
Et c'est peut-être aussi lié à la réglementation et à la régulation. On en a vu passer un sacré bout l'année dernière avec la discussion autour de MiCA. C'est pas fini aujourd'hui avec l'agrément obligatoire potentiellement avancé. On en a traité un paquet de fois de ce sujet sur les podcasts et sur Cryptos, donc on va pas en revenir, mais je crois que tu avais quand même échangé, tu as eu l'occasion à travers la DAN d'échanger avec des responsables politiques. Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ces besoins et de cette souveraineté importante pour l'euro dans ce nouveau marché qui est la finance décentralisée, qui sont les crypto-monnaies et qui sera demain le Web3?
Je trouve, oui. Moi, je suis très agréablement surpris par la qualité des échanges qu'on a, soit avec les politiques. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Noël Barrot, mais soit avec les gens qui sont à la CPR, à l'AMF. Enfin, et même de façon générale, je trouve ça cool que dans l'administration française, il y ait des gens de talent avec lesquels on puisse discuter et qui comprennent nos problèmes. Donc, tout le monde est sensible au sujet de souveraineté monétaire et économique parce que un stablecoin, souvent les gens ont tendance à dire que c'est des protocoles ou des entreprises qui se substituent au monopole des banques pour émettre de l'argent, sauf qu'il n'y a pas de création monétaire quand on fait un stablecoin. Quand on fait un stablecoin, il y a toujours quelque chose qui doit être derrière pour justifier la valeur des stablecoins. Donc nous, ce qu'on a derrière, c'est chez Angle, en grande partie dans le protocole, c'est des stablecoins dollars, mais pas que. Ce qu'ont les autres stablecoins euros centralisés, c'est des euros. Donc, en fait, c'est juste de l'euro qui est créé à nos standards, mais ce n'est pas de l'euro qui est créé de toutes pièces. Et c'est juste apporter de l'euro sur un terrain dans lequel l'Europe se trouve peu. Donc, Voilà, c'est un vrai sujet de souveraineté monétaire, et ça, tout le monde le comprend. Avant, la reproche quand on réfléchissait à lancer le stablecoin, on disait oui, vous vous substituez au monopole des banques, les gens vont vous attaquer. Sauf qu'en fait, bon, c'est très rapide à expliquer. Donc tout le monde est aligné là-dessus. Mais juste pour revenir sur la question de la réglementation, je pense pas que ce soit ça qui ait pénalisé l'émergence des stablecoins euros, parce que les stablecoins dollars ont émergé en l'absence de cadre légal, tout comme un stablecoin euro aurait pu émerger en l'absence de cadre légal et la réglementation aurait pu se faire autour d'un stablecoin euro existant. En revanche, là, ça pénalise, enfin, ça pénalise pas, mais maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un cadre légal et que ce cadre légal est très défini pour les stablecoins centralisés, mais qu'il est peu clair pour les stablecoins décentralisés, c'est un peu moins évident. Et là, ça nous pénalise un tout petit peu plus dans notre croissance, même si je dirais que c'est très limité et que ce n'est pas le facteur limitant de croissance. Donc oui, les gens nous écoutent. Et oui, tout le monde a cette volonté commune, je trouve, pour le moment, de construire vers une place plus importante de l'Europe dans l'écosystème de la finance décentralisée.
Et pour le coup, on en avait parlé à l'époque justement de la mise en place de MiCA. On avait fait un paquet de vidéos avec une quinzaine d'acteurs de l'écosystème français-européen. On avait fait justement ce passage ensemble. On avait reçu Ledger, Coinhouse et tous les géants européens sur ces sujets à l'époque où la réglementation s'interrogeait à travers le règlement MiCA à cadrer l'industrie. Et ce que tu disais dans le cadre de nos échanges, c'était que en fait, la politique de la Banque centrale européenne, par la voix de Christine Lagarde, en plus elle a parlé il y a quelques jours et en ce moment on est en pleine remontée des taux, elle t'impacte aussi, elle impacte aussi ton protocole parce que, in fine, tu es dépendant de la politique monétaire de la BCE en l'occurrence, puisque tu as de l'euro.
Ouais, exactement. Nous, notre stablecoin euro, il suit la valeur de l'euro. Donc, si la BCE décide d'affaiblir l'euro, bon, c'est pas son objectif, mais si la BCE prend des décisions qui affaiblissent l'euro, notre euro s'affaiblit. Et si la BCE monte les taux, ce qui fait que ça renforce l'attractivité de l'euro et que ça monte la valeur de l'euro par rapport au dollar, eh bien l'euro monte. Et donc, aujourd'hui, si vous étiez en DeFi et avez des stablecoins dollars, enfin, si on regarde sur les 2 derniers mois, le meilleur pari que vous auriez pu faire, en fait, c'était avoir juste de l'AG euro qui a gagné 10% par rapport au dollar, parce que l'euro a gagné par rapport au dollar. Donc, on est des instruments de la politique monétaire et économique européenne. On n'est que un stablecoin, c'est un miroir. Et donc, on est un miroir des euros. Et donc, tout ce qui se passe sur le marché forex, il se passe aussi sur le marché des stablecoins.
Et quelle est la différence et comment tu perçois du coup pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec cet environnement des stablecoins, même si bon, en vérité ça fait depuis l'été de la DeFi qu'on en entend beaucoup parler, donc été 2020, justement pour participer à ces protocoles de la finance décentralisée, pour aussi protéger ses gains potentiels dans les crypto-monnaies quand on a fait un gain en Ether, en Bitcoin. Et on rappelle effectivement que en France, en tout cas, la fiscalité n'est impactée que lorsqu'on repasse en euros. Donc l'intérêt de rester en stablecoin, c'est que le temps de ce swap, il n'y a pas de fiscalité générée ou en tout cas à présenter à la prochaine déclaration. Mais il y en a qui peuvent confondre ou en tout cas imaginer que les stablecoins seront demain en affront avec les euros numériques et toutes les monnaies numériques de banque centrale. On en entend parler de plus en plus aussi de ces outils des banquiers centraux. Est-ce que, voilà, pour toi, c'est deux choses qui sont similaires et où est-ce que ça va continuer d'exister en parallèle?
Moi, je pense que ça va continuer d'exister en parallèle. On regarde par exemple aujourd'hui, il y a déjà plein de. Bon, ce n'est pas de l'argent de la Banque centrale, mais il y a une grande diversité de stablecoins euros. Bon, par exemple, Stasis qui fait un stablecoin qui s'appelle l'Eures, Angle qui fait l'AG euro, mais il y a Tether qui a un ERC, Circle a son ERC. Et je pense que. Ça va être à deux tranchants. Enfin, il y aura deux types de logiques différentes. Il y aura une logique où c'est possible que certains stablecoins se construisent sur des verticales très particulières. Par exemple, je pense que les stablecoins qu'on utilisera pour le paiement seront différents des stablecoins qu'on utilisera pour générer un revenu. Parce que, par exemple, un stablecoin centralisé, c'est beaucoup plus facile de faire de l'on-ramp et de l'off-ramp, donc la conversion argent liquide en crypto et crypto vers l'argent liquide. Et ça facilite toutes les logiques de paiement, les logiques de remittance, donc c'est les paiements transfrontaliers. Ça, c'est facile avec un stablecoin centralisé. En revanche, pour tout ce qui est avoir un yield, bah, c'est plus facile quand on est un stablecoin décentralisé qui repose sur des smart contracts de créer des cas natifs d'usage qui facilite la création de ces revenus. Donc c'est peut-être un peu abstrait, mais par exemple, aujourd'hui, l'AG euro, c'est un stablecoin qui s'emprunte à 0,5%, parce que le protocole peut en créer à 0,5% contre de l'Ether. Et ça crée vachement de fluidité en fait. Quand aujourd'hui vous devez emprunter de l'USDC, bah, l'USDC ça vous coûte 3%. Nous, la GEuro, dans le protocole, la gouvernance peut décider de hardcoder le fait que c'est 0,5% l'emprunt. Et donc ça crée vachement, ça facilite vachement l'intégration en DeFi, la création d'effets de réseau, le volume. Et le volume, c'est une des grandes sources d'origine du revenu qu'on touche en possédant. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais je pense qu'il y aura des cas d'utilisation spécialisés. Le stablecoin, c'est un standard, mais il y a des plateformes. Ce que je pense aussi, c'est que tout ça coexistera sans qu'on s'en rende compte aussi. Donc là, si on dézoome un peu, il y a des protocoles comme Curve qui sont construits pour faciliter l'échange d'un stablecoin vers un autre. Et là, aujourd'hui, la DeFi telle qu'on la connaît, c'est vraiment à ses prémices. Enfin, au niveau de l'UX, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui comprennent rien à mon site, alors que bon, on passe pas mal de temps quand même à essayer d'expliquer Angle, mais c'est pas que nous. Je veux dire, je montre à V à quelqu'un qui connaît pas. La personne doit comprendre son wallet, doit comprendre la transaction d'approval, doit comprendre d'où vient le yield. C'est pas évident. Enfin, et donc l'UX est compliqué. Mais imaginez l'UX d'avoir différents, enfin d'avoir sans stablecoin euro différents, c'est encore terrible. Donc ça ne pourra pas. Il y aura des stablecoins qui existeront en parallèle, mais ça sera invisible. Et les protocoles comme Curve qui permettent de les échanger les uns avec les autres, ça sera le pilier de toute cette infrastructure, je pense.
Ok, très bien. Et ouvrons un petit peu du coup le côté technique sur Angle. En particulier, on a compris les stablecoins centralisés, on les connaît, tu les as spécifiés, il y a un USDT en circulation, c'est qu'il y a un équivalent dollar dans les comptes en banque de Tether qui y émet. On connaît aussi un petit peu Maker, et on a cité là aussi un paquet de fois le nom MakerDAO avec son DAI. On en a parlé il n'y a pas si longtemps sur BFM notamment, puisque la Société Générale Forge arrive dans la DeFi à travers MakerDAO. Mais voilà, c'est en gros, je donne 1,5 dollars et je peux en emprunter 1. Donc, j'en donne 1,5 en équivalent Ethereum, Bitcoin ou autre. Et du coup, je peux emprunter 1 dollar de stablecoin. Sur Angle Protocol, comment ça marche cette stabilisation? Comment on crée de la monnaie? Comment on s'assure que justement, il y ait ce qu'il faut en face pour pas que ça soit de la création ex nihilo? Et qui prend le risque de cette garantie si jamais le marché part dans le mauvais sens?
Alors, déjà, je pense qu'avant d'expliquer concrètement comment Angle ça marche, je vais expliquer déjà ce que c'est qu'un stablecoin décentralisé. Un stablecoin décentralisé, c'est une machine à absorber de la volatilité. C'est un ensemble de smart contracts dont le but, c'est d'accepter des crypto-monnaies qui sont volatiles et en output, de faire quelque chose qui est stable. Il se trouve aussi que généralement, tous les protocoles de stablecoin décentralisé, ils se lancent avec une façon différente d'absorber cette volatilité. Mais en fait, là, les gros protocoles de stablecoin, donc Maker, Frax et Angle, tout le monde commence à converger vers les mêmes façons de créer la stabilité. Et un protocole de stablecoin, ce n'est pas qu'une seule façon, en fait. On se lance avec une, mais c'est facile de rajouter d'autres façons d'absorber, d'autres façons interopérables et compatibles d'absorber cette volatilité. Donc là, par exemple, le mécanisme que tu as décrit chez Maker, où tu peux mettre 1,5 euro d'Ether, enfin dollar d'Ether, et emprunter jusqu'à 1 dollar de DAI, bah, il est aussi possible chez Maker. Donc, c'est ce qu'on appelle notre borrowing module. Tu peux surcollatéraliser, donc mettre plus de crypto-monnaie dans le protocole et ça te donne le droit d'emprunter jusqu'à un certain montant d'AG euro sur lequel tu payes des intérêts. Si la valeur de ce que tu as mis dans le protocole baisse trop, bah, tu perds ce que tu as apporté. Mais comme ce que tu as apporté, c'est plus que ce que tu as emprunté, le protocole, lui, il garde toujours plus en réserve que ce qu'il y a en circulation. Nous, ce sur quoi on s'est lancé, ce n'est pas sur cette idée de Maker qui date depuis 2018, je dirais. Nous, on s'est lancé via ce qu'on appelle notre core module. Notre core module, comment ça marche? Ça marche par le fait que des gens peuvent arriver à voir le protocole avec des stablecoins dollars. Et le protocole va leur donner la valeur correspondante en euros, la valeur correspondante en AGEuro. Donc, tu viens voir le protocole avec un USDC, le protocole te donne 1 dollar d'AGEuro. Donc, si 1 dollar vaut 1 euro, bah, tu récupères 1 AGEuro. Maintenant, le protocole, ses actifs, ils possèdent des dollars, mais c'est liability, ce qui doit, c'est des euros. Et donc, ils portent un risque de change parce que si demain, le prix du dollar chute de 50%, par exemple, toi, tu viens voir le protocole avec ton AGEuro, mais il faut que pour maintenir la stabilité de l'AGEuro, il faut qu'on te donne la valeur correspondante en euros. Et donc, si le dollar a chuté de 50%, il faut qu'on donne 2 USDC. Et donc, ce que le protocole fait pour s'assurer contre son risque de change, bon, excusez-moi, c'est un peu technique, il émet ce qu'on appelle des perpétuels futurs. Donc, ce sont des produits à effet de levier qui permettent de se rendre neutre au risque de change dollar-euro. En fait, ça revient à dire qu'il y a des gens qui viennent voir le protocole pour dire, regardez, tu as un dollar en réserve qui varie par rapport à l'euro. Ben, moi, je vais t'apporter un peu de dollars. Et si le prix du dollar baisse par rapport à l'euro, tu pourras piocher dans le dollar que je t'ai apporté. Mais en revanche, si le prix du dollar monte par rapport à l'euro, bah, toi, tu vas me donner des dollars. Et ça fait que chez Angle, le protocole, il est toujours capable de maintenir une valeur de réserve qui est égale à la valeur des stablecoins qui est émise. En plus de ça, il y a un mécanisme. Le protocole, il est possible de le surcollatéraliser via des personnes qu'on appelle des standard liquidity providers qui prêtent de l'argent au protocole et qui sont là pour en fait c'est une surcouche de protection dans le cas où le protocole est pas bien est mal assuré contre ce risque de change de l'argent. Donc Angle, il y a ce core module, il y a ce boring module qui permet donc d'emprunter des Agero, et il y a une autre façon, une autre grosse façon de créer des stablecoins, donc d'absorber la volatilité, et qui, elle, est aussi pour le coup commune à ce que fait Maker. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Un protocole de stablecoin, il a la facilité, la faculté, enfin, un protocole décentralisé a la faculté de créer des stablecoins, de la liquidité pour des stablecoins dans d'autres protocoles. Donc, Maker, par exemple, ils vont minter du DAI dans le protocole AV. Et ce DAI, il est créé à partir de rien, mais il rentre, il n'est pas en circulation parce qu'il appartient quand il est prêté au smart contract de AV, mais il entre en circulation que quand il est emprunté par les gens qui, bah, sur AV, par exemple, ont mis de l'Ether pour emprunter du DAI. Et donc, ça fait que le mécanisme de risque du protocole Maker, ça devient le risque de AV. Et donc le mécanisme d'émission du DAI, ça peut devenir le mécanisme d'émission, le mécanisme avec lequel on emprunte chez AV. Bon, en gros, c'est ce qu'on appelle des direct deposit modules. Je viens d'expliquer ce que faisait Maker sur AV. Angle fait la même chose sur Euler, sur AV et sur Curve pour la Giro de façon automatisée et via des smart contracts.
Ok,
Voilà,
bon, ça
donc
fait
en
beaucoup
gros,
d'infos.
tu as compris que c'était. À la fin, c'est que des règles économiques, comment on absorbe la volatilité, comment on fait en sorte que la liquidité, tout en faisant en sorte que ce soit facile de créer le stablecoin et qu'il soit facile d'accès, qu'il soit liquide un peu partout. Donc, ouais, un stablecoin, protocole de stablecoin décentralisé, ce n'est pas qu'une façon de faire les stablecoins, c'est plein de façons.
Ok, effectivement, la plus connue, c'est on dépose plus que ce qu'on emprunte. Donc, et le jour où ça va dans le mauvais sens, on vient taper dans ce qu'on a déposé, l'équivalent d'un prêt sur gage. Et c'est comme ça qu'on garantit la solvabilité du protocole, puisqu'on ne connaît pas l'identité en général des gens qui viennent emprunter, car c'est avec leur adresse 0x qu'ils le font. Donc, effectivement, il y a toujours, en fait, c'est ça la variable qui impose à ces protocoles d'avoir des mécanismes un peu différents que ceux des banques et qu'on entend bien souvent. Ah, mais en fait, ça sert à rien d'aller voir un protocole pour déposer deux fois plus ou une fois et demie plus que ce que je veux emprunter. C'est bête, si je veux emprunter, c'est que je n'ai pas. Donc, il y a parmi ces mécanismes d'autres usages que tu viens de décrire qui sont peut-être un peu complexes, mais qui résolvent une partie de la problématique. Et je laisserai les auditeurs faire marche arrière sur tes différentes explications pour
Ouais,
aller plus en détail les
désolé
regarder.
si je vais un peu vite sur ça parfois, mais ouais, moi je trouve ça important d'éduquer les gens aux différents types de stablecoin. Par exemple, souvent on dit est-ce que l'Agero c'est un stablecoin algorithmique? Si vous voulez savoir si un stablecoin, déjà, donc un stablecoin décentralisé c'est un stablecoin qui est régi par des smart contracts. Moi j'ai ma définition propre des stablecoins algorithmiques. Je vais utiliser un mot savant, ce sont des stablecoins qui ont ce qu'on appelle un collatéral endogène. C'est-à-dire dont le collatéral, donc ce qui a derrière le stablecoin, dépend lui-même du succès du stablecoin. Donc par exemple, l'Agero, c'est le stablecoin du protocole Angle. Le jeton gouvernance, c'est un jeton qu'on appelle l'Angle, donc qui correspond en quelque sorte aux actions du protocole. Globalement, l'Angle se porte bien quand il y a beaucoup d'Agero en circulation, mais pour autant, c'est impossible de prendre de l'Angle et de l'utiliser pour émettre d'une façon ou d'une autre de l'Agero. Et donc, chez Angle, il n'y a pas de collatéral qui soit endogène. Donc, Angle n'est pas un protocole algorithmique. Maker n'est pas un protocole de stablecoin algorithmique, mais l'UST, qui a explosé et dont toutes les personnes sérieuses, je trouve, auraient pu se rendre compte que c'était un scam, un Ponzi qui allait éclater. Et comment on aurait pu le savoir? Parce que c'est un stablecoin qui repose sur un collatéral qui est purement endogène. Et donc, ça ne peut pas marcher. Enfin, j'espère que je me trompe et il y a d'autres personnes qui sont en train d'essayer de faire marcher ça, mais pour moi, ça ne tient pas.
Ouais. Non, mais effectivement, c'est quand il y a ces deux mécanismes avec deux tokens propres, donc vous avez l'USD d'un côté et le Terra de l'autre, qui sont liés de cette manière, c'est toujours un peu compliqué pour la masse, l'extension de la masse monétaire de ces protocoles. On l'avait là aussi traité pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je mets dans la description des articles que nos journalistes à Cryptost ont pu traiter sur ce sujet. C'était l'année dernière, c'était le printemps dernier qu'effectivement Terra avait explosé avec 30 ou 40 milliards de dollars, qui avait fait très mal à l'écosystème. Et justement, dans ces dynamiques de création, vous avez d'autres choses. Aujourd'hui, c'est l'AG Euro qui est le plus important, le plus gros, qui vous prend beaucoup de temps. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe
On
de
est
Angle?
Angle, c'est un protocole décentralisé. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Angle Labs, dans laquelle on est 8, mais qui n'est pas qui est un des contributeurs majoritaires au protocole. On n'est pas à l'état d'avancement de AV, qui a des dizaines de compagnies, d'entreprises qui aident au développement du protocole. Nous, il y a Angle Labs qui contribue majoritairement, mais comme il y a des auditeurs, il y a des entreprises d'Oracle qui aident au protocole. Donc, chez Angle Labs, on est 8.
Ok, très bien. Et donc, vous êtes en train de réfléchir à d'autres choses à ajouter au protocole. Notamment, tu nous disais en introduction, et on en discutait l'autre jour, un stablecoin qui suit le cours de l'or, ou en tout cas qui est lié à l'or. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ça existe en partie sur certains points de manière centralisée, mais décentralisée. Vous êtes sur les innovations que vous êtes en train de porter, là aussi, une entreprise un petit peu en avance.
Oui, donc enfin, globalement, sur la GEuro, on a construit une machine qui marche bien. Le Boring Module marche très bien. On serait capable de faire des stablecoins sur à peu près n'importe quoi avec le Boring Module. Le stablecoin or d'angle, c'est juste se dire bah, toute l'infrastructure qu'on a construite, on peut la rentabiliser et créer d'autres primitives qui ont de la valeur aussi en DeFi. Aujourd'hui, les stablecoins or principaux, tu l'as dit, c'est décentralisés qui sont soumis à un risque de censure, donc comme celui de Paxos,
Alors,
décentralisés.
tu dis
Pardon.
des plus loin centralisés du coup, et non pas
Non, ouais,
décentralisés.
pardon, des stablecoins centralisés, ouais. Celui de Paxos, c'est celui de Tether.
Voilà.
Pardon, désolé. Et donc, ce sont des stablecoins sur lesquels il est parfois, tu dois payer un frais pour le transférer. Le PaxG de Paxos, ça te coûte 2 points de base, donc 0,02% à chaque fois que tu veux l'envoyer. Donc, si moi je t'envoie 10 000, toi tu reçois 9 998 à chaque fois. Et donc, il manque un stablecoin qui soit vraiment décentralisé, incensurable à l'écosystème. Et bah, pour nous, c'est assez naturel d'essayer de contribuer à créer cette verticale, cette primitive avec le protocole Angle. Donc ça, je parle au nom de Angle Labs. La proposition pour lancer le stablecoin Or, bah là, elle est en train d'être votée. Et une fois que ça sera voté, bon, bah, le protocole sera déployé pour le stablecoin Or et le stablecoin vivra sa vie. Mais sinon, sur les autres innovations, en fait, en DeFi, il y a une petite prime d'apprentissage, enfin une petite prime, une petite courbe d'apprentissage. Mais nous, ça fait quasiment plus de 2 ans, même quasiment, enfin qu'on est à temps plein dans l'industrie à construire. Donc, on se rend compte que il y a pas mal de choses qu'on est capable de faire et qu'on est capable de faire un peu plus vite que quand on a commencé. Et là, on est dans une logique bah, de comment on rentabilise ça. Et c'est la première logique. Et donc, ça, on est en train de développer aujourd'hui un produit d'incentivisation de la liquidité sur Uniswap V3. Aujourd'hui, fournir des incitations financières aux gens à donner de la liquidité sur Uniswap V3, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour des raisons purement techniques. Parce que quand vous fournissez la liquidité sur Uniswap, vous recevez un NFT, vous ne recevez pas un token ERC20. Et ça fait que les gens qui veulent vous donner de l'argent pour donner de la liquidité, bah, c'est plus compliqué pour eux. Chez Angle, on a développé une solution qui permet à tout le monde. Qui permettra à tout le monde en une seule transaction super simplement de donner des incitations financières sur les pools de leur choix sur Uniswap. Et donc ça, on espère avec ça positionner l'AG Euro comme plateforme principale tournante de liquidité sur Uniswap, vu que le marché de l'incitation financière sur Uniswap, c'est un marché énorme et pourtant très efficace. Et donc on est en train de se positionner sur ça. Mais nous, les perspectives qu'on souhaite donner, on trouve qu'aujourd'hui, et ça souvent, c'est bon, globalement un peu controversé, tout le monde n'est pas d'accord avec moi quand je dis ça, mais on trouve que la DeFi, c'est quelque chose qui ne sert Pas grand chose encore. On est plus à l'état de la preuve de concept. On a prouvé qu'on était capable de faire des stablecoins décentralisés. Enfin, pas on, nous, mais l'industrie. On a prouvé qu'on était capable de faire des plateformes de prêt. On a prouvé qu'on était capable de faire des plateformes d'échange comme des AMM comme Uniswap. Mais la DeFi, elle n'est pas encore très intégrée à la finance traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup, c'est quand même un jeu qui est réservé à une élite. Enfin, c'est un cercle clos qui se suffit pour une grande part à lui-même. Et donc, nous, tout ce qu'on cherche à faire et nos objectifs chez Angle en ce moment, c'est un, de continuer à innover parce qu'on pense qu'il y a eu quelques innovations majeures, mais depuis quelques temps, et nous, on ne prétend pas avoir trouvé, réinventé la roue. Je pense que chez Angle, ce qu'on a fait, c'est on est parti sur des innovations qui ne viennent pas de nous, qu'on a améliorées à 30%. Enfin, on a fait peut-être 30% mieux, mais on n'a rien inventé. Donc, il est encore possible d'innover et beaucoup d'équipes, je trouve, ont tendance à oublier ça. Et surtout, ce qui nous motive, c'est bon, comment on fait grossir la DeFi et comment on passe de toute cette technologie qui est super prometteuse, comme je disais au début, qui permet de reconstruire vraiment la finance d'une façon plus efficace, à la réalité, à la finance reconstruite de façon plus efficace. Et donc là, nous, les prochains produits qu'on est en train de développer, c'est des produits qui vont dans ce sens-là. On n'a rien annoncé d'officiel encore, mais ce sur quoi on travaille, c'est des produits qui ont un trait avec donc, ce qu'on appelle des reward assets, securities, des produits financiers tokenisés par d'autres entités autour desquelles il serait possible d'investir en AgEuro. On est en train d'essayer de réfléchir à comment on collatéraliserait l'AgEuro avec des bons du Trésor et donner le collatéral, enfin la valeur, le yield des bons du Trésor aux détenteurs de stablecoin euro. Donc voilà, il y a tout un univers qu'on est en train d'explorer. On a des produits qui sont quasiment finaux, qu'on devrait lancer, j'espère, dans les prochains mois. Évidemment, il y a beaucoup de réglementaires et de régulatoires sur lesquels on est vraiment en train de se bétonner, parce que nous, on est là enfin, pour le long terme. Moi, ça ne m'intéresse pas de construire la DeFi, de construire un DeFi et de m'arrêter au prochain bull market. Et je pense qu'on est tous alignés sur ça dans l'équipe. Ce qui nous intéresse, c'est de construire et d'accompagner le développement de l'infrastructure financière. Et donc, oui, on ne va pas prendre des risques inconsidérés. On veut se mettre en conformité. Donc, en conformité, mais tant qu'il est aussi facile pour nous de construire. Donc, il y a toujours cette ambivalence. Est-ce qu'on se met en mode full conformité et bon, on ne fait plus grand-chose, ou est-ce qu'on construit en se disant, bon, on est un peu dans l'expectative de comment est la loi? Voilà, on essaie d'optimiser dans ce terrain-là. Mais donc, voilà, nous, c'est dans cette direction-là qu'on construit. On a des produits qui arrivent. Dans l'idée de rendre la DeFi plus efficace. Et ça ne sera pas forcément que tout autour de l'AgEuro. L'AgEuro, c'est une brique en soi pour nous d'une finance décentralisée. Mais d'ailleurs, peut-être pour finir sur ce long monologue, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le concept de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est mieux. Mais ce n'est pas ça, je pense, qui va faire que demain, tous les flux financiers, tous les produits d'options, tous les marchés financiers se passeront sur les blockchains. C'est le fait que la blockchain, c'est un standard qui est transparent. Et donc, ce que je préfère comme terme, moi, c'est le terme d'open finance. Et donc, Angle est un protocole décentralisé et restera un protocole décentralisé. Mais en revanche, l'industrie pour laquelle on construit, c'est l'industrie de l'open finance. Donc, ça ne me dérange pas, moi, que le protocole Angle et dans ses réserves des actifs qui sont centralisés comme l'USDC. Ça ne me dérange pas d'interagir avec la Société Générale. On est en train de travailler avec la Société Générale pour voir comment on fournit des use cases autour de l'euro comme ce qu'eux sont en train de faire autour de Maker avec le DAI. Bon, il y a rien de finalisé. Je ne suis même pas sûr qu'il se passe quelque chose, mais voilà, on explore. La centralisation, ce n'est pas un mal en soi. Ce qui compte, c'est la transparence pour éviter les situations comme FTX où tout est opaque. On voit les assets des gens on-chain, mais on ne connaît pas leurs liabilities. Du moment que assets et liabilities sont publics et transparents, un peu comme une banque, on est capable de voir ce que font les gens avec leurs réserves qui ne prennent pas des risques inconsidérés avec les dépôts de leurs clients. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Angle, c'est un protocole de stablecoin. On développe plein d'autres produits autour, mais on construit surtout pour l'open finance et pour la finance de demain.
Magnifique, merci beaucoup. Et en un mot alors, qu'est-ce que tu regarderais sur l'année qui arrive? Je posais la même question il y a quelques semaines à Marc Zeller de AAV, qui me disait que c'était justement la guerre des layers 2 qui va se mettre en place avec peut-être les ZKP, les Zero Knowledge Proof, pour tout ce qui va apporter de la scalabilité sur Ethereum. Toi, tu es plus orienté sur On l'a vu, les use cases de cette Open Finance. On en a dit un mot de la Société Générale Force qui se dirige de plus en plus là-dedans, et donc de faire sauter en fait la barrière entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée pour que les deux aillent chercher le meilleur l'un de l'autre dans ce nouveau consensus, justement. Mais en un mot, qu'est-ce que tu vas regarder là sur les 11 prochains mois qui restent à cette année 2023 dans le cadre de cette finance open décentralisée?
Donc, bien sûr, je vais regarder la guerre des layers 2, des zero knowledge proof. Nous, en tant que contributeurs au stablecoin euro, on n'a pas de choix à faire. Un stablecoin, il se doit d'être liquide et utilisé partout. Donc, non, je ne fais pas du tout de la guerre. Ça ne m'intéresse pas, la guerre de clochers en mode Avalanche, c'est mieux que Optimism, etc. L'Algéro, il doit être présent partout. Donc, on regarde, mais juste pour savoir où est-ce que ça prend, pour être sûr que si un endroit ça prend, l'Algéro s'y retrouve et soit déjà bien intégré, mais sans aucune préférence et aucun biais technique. Non, moi, ce que je vais regarder, c'est toutes les procédés de tokenisation d'actifs. D'actifs de security, de produits financiers, et tous ces procédés, toutes les boîtes qui font de la tokenisation. Donc, il y a une boîte qui s'appelle Bakkt, notamment, qui s'est lancée, enfin, a annoncé son lancement là, cette semaine, début février, qui permet d'acheter des actions des actions d'un ETF qui investit dans le S&P 500.
OK.
Voilà, donc c'est ce genre de truc-là, moi, qui m'amuse, et c'est le genre d'innovation qui m'intéresse plus, parce que c'est bon, c'est ce autour de quoi on construit. Mais je pense qu'il y a vraiment des trucs passionnants qui se passent aussi au niveau de la scalabilité, mais chacun son domaine, quoi.
Ouais, totalement. OK. Et on regarderait effectivement cette tokenisation de la vie réelle, ou en tout cas de toute cette frontière qui saute entre les deux finances. Merci beaucoup, Pablo, d'être venu brosser tout ce tableau. À très vite.
Merci Valentin.